Alors ce matin, on est dans 1 Pierre, on continue 1 Pierre, on est dans 1 Pierre 1 au verset 13. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu. Et juste pour se mettre en contexte, une des réflexions qui me venait cette semaine, c'est plus j'avance dans les années, plus moi j'avance dans le ministère pastoral, et plus j'apprécie quelque chose d'étrange, d'accord? J'apprécie le fait que dans une église, dans une communauté, on partage ensemble des choses diamétralement opposées, c'est-à-dire qu'on vit des choses personnelles qui sont des fois en complète contradiction. Il y a quelqu'un dans l'église qui vient de perdre un proche et qui commence à entrer dans un deuil. Il y a quelqu'un dans l'église qui vient de voir un enfant naître. Il y a quelqu'un dans l'église qui perd son emploi, quelqu'un d'autre vient de trouver un emploi. Et c'est un des aspects de la vie d'église que j'apprends à apprécier de plus en plus avec les années. On vit dans une culture, dans une société où on est tous très, très, très occupés. Si vous pensez à votre vie à l'extérieur de l'église, on vit dans une culture, une société où on est très occupé, on poursuit un paquet d'objectifs personnels, de carrière, de maison, de vacances, de mise en forme, de hobby. On a toutes sortes d'opportunités, des amitiés, tout ça. Mais ce que ça fait souvent, ça, c'est qu'on vit quand même en silo. Ces vies-là sont comme vécues en silo, puis finalement, ben, tu as peut-être quelqu'un proche de toi qui passe par un deuil, mais les probabilités qu'il y ait quelqu'un proche de toi qui traverse un deuil en même temps qu'il y a quelqu'un qui vient perdre son emploi, puis oups, il y a un enfant qui vient naître. Puis, on ne vit pas ça dans notre culture. À l'époque, dans un village, tu pouvais vivre toutes ces choses-là, puis on partageait ces choses-là, puis tu étais au courant. Et ces vies de village-là, on les trouve dans une église locale. Dans une église locale, on est là pour partager ensemble. Et c'est sûr qu'on ne se connaît pas tous intimement, puis plus l'Assemblée grandit, moins c'est le cas. Mais en même temps, on est au courant des souffrances d'un, puis on prie pour un autre, puis on apprend des bonnes nouvelles, puis la naissance d'un enfant. Et c'est ça l'Église. C'est un endroit où on partage les peines et les joies, puis on apprend à vivre toujours avec toutes ces émotions-là un petit peu en même temps, puis on est là, on s'accompagne. Je souris avec un, je me réjouis avec lui, puis je m'en vais pleurer avec lui cette semaine. Et dans sa lettre, Pierre veut équiper les chrétiens à vivre avec une joie profonde alors même qu'on traverse la souffrance, alors même qu'il y a plein de souffrances qu'on vit. Je l'ai mentionné dans cette lettre-là, on va passer plusieurs semaines, c'est vraiment, on plonge dans le texte. Et on vient de terminer l'introduction de la lettre où Pierre était dans, je vous ai dit la semaine dernière, encore une doxologie, il est en train d'adorer Dieu. Puis je le répète, ça va être la troisième fois que je le dis. La première leçon pratique à retenir de la lettre de Pierre, c'est quoi? Si ton adoration ne va pas bien, ça va être très difficile de vivre la vie chrétienne. Fait qu'assure-toi qu'à tous les jours, à toutes les semaines, tu prends le temps d'aller lire un psaume, tu prends le temps d'aller dans la prière, puis juste dire « Merci Seigneur pour la journée qui commence ». Merci Seigneur pour tes bontés envers moi. Je veux compter tes bienfaits envers moi. Je veux t'adorer. Je veux penser à Christ, à son œuvre pour moi. Je veux repasser l'Évangile dans mon cœur en commençant la journée. Parce que si ton adoration ne se porte pas bien, si ta louange ne va pas bien, ça va être très difficile de traverser les épreuves de la vie. Maintenant, on entre dans une deuxième partie de la lettre où là, Pierre va nous lancer un paquet d'impératifs. Maintenant que vous savez cela, voici comment vous devez vivre comme chrétien. Puis vous allez voir, plus on va avancer dans la lettre, plus il va y avoir des impératifs. Mais rappelons-nous, puis c'est ça qui va nous rappeler au début du passage ce matin, que tous ces impératifs-là se vivent à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'Église, comme on vient de le mentionner, cette famille, ce village où on vit les joies et les peines, les tristesses et les rires ensemble, on les partage, on apprend à se supporter les uns les autres, à s'encourager, à se réjouir, sans jalousie, sans mesquinerie, mais avec amour, avec charité, avec une joie réelle, Seigneur. Et Seigneur, il y a tant de gens qui actuellement souffrent dans l'Église, tant de gens qui vont souffrir cette année, et on va tous souffrir un moment ou un autre. Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole ce matin. Viens faire une œuvre profonde, réelle, puissante, par ton Esprit Saint, que cette parole, cette lettre que tu nous as donnée, Seigneur, ne soit pas que de la théorie pour nous, mais que tu viennes l'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies et dans cette congrégation, dans cette assemblée, par la puissance de ton Esprit, Seigneur. Que personne ne reparte d'ici aujourd'hui sans avoir reçu par ton Esprit et par ta parole quelque chose qui vient bouleverser, fortifier, édifier notre âme. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Nouvelle Édition de Genève, 1 Pierre 1, versets 13 à 21. 1 Pierre 1, versets 13 à 21. C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Merci, Judith. Pierre commence au verset 13 en disant « C'est pourquoi ». Considérant tout ce qu'on a vu ensemble, la grandeur de Dieu, la grandeur de l'Évangile, l'appel que vous avez reçu, c'est pourquoi, considérant tout cela, saignez les reins de votre entendement. C'est une image biblique. Tantôt, je vais vous donner d'autres versions, mais saignez les reins de votre entendement, ça vient d'une image. À l'époque, les gens, même les hommes, avaient des tuniques qui étaient longues, et puis on a le récit d'Élie qui va ceindre ses reins. Il va serrer sa ceinture, puis il prend les pans de sa robe, puis il les rentre dans sa ceinture pour être libre de courir, passer à l'action. Saignez les reins de votre entendement. Préparez-vous à l'action. Soyez sobre, pas dans le sens ne buvez pas, mais soyez présent. Soyez présent d'esprit et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Pierre dit, maintenant que vous savez toutes ces choses-là, ne perdez pas le focus. Gardez les yeux sur le retour de Christ. Puis c'est intéressant, il y a une promesse future. Que votre espérance soit entière dans la grâce qui vous sera apportée. Parce qu'il y a une grâce dans l'Évangile que je ne vis pas encore. Je suis sauvé par grâce, mais en théologie, on va dire, je suis dans le pas encore. J'attends encore le retour de Christ. Et jusqu'à son retour, il y a des choses difficiles qui vont être à traverser ensemble. Puis je vais trouver la force, la joie pour vivre ces choses-là en gardant mon espérance fixé sur le retour de Christ. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Comme enfants de Dieu, c'est dans le retour de Jésus-Christ que nous plaçons toute notre espérance. Et nous poursuivons dans cette vie la sainteté comme notre Père céleste et saint. Je répète ça. Comme enfants de Dieu, c'est dans le retour de Jésus-Christ que nous plaçons toute notre espérance et nous poursuivons dans cette vie la sainteté comme notre Père céleste et saint. Focus, notre espérance est dans le retour de Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà pu accompagner un de vos enfants qui apprend à conduire. Puis il est au volant, tu sais, puis tu es assis à côté. Puis au début, tu as l'impression qu'il est toujours distrait. Moi, je me souviens des premières années que j'avais un cellulaire au volant, puis j'avais encore une voiture manuelle en plus. Esther voulait faire une crise de cœur quand elle était à côté de moi. Je pouvais ajuster la radio, avoir mon cellulaire, puis shifter mon bras de vitesse en même temps. Puis je me souviens, c'est « Hey, regarde en avant! » Regarde, veux-tu regarder en avant? Fais juste « regarde en avant ». C'est ça que Pierre est en train de nous dire. Pierre est en train de nous dire « c'est facile, facile, facile d'être distrait ». J'ai mentionné dans le courriel de cette semaine le voyage du pèlerin. Si vous n'avez jamais lu le voyage du pèlerin de John Bunyan, c'est un classique à lire, vous devez lire ça. Et une des idées qui revient le plus souvent, c'est que c'est tellement facile sur la route, sur le chemin de la vie chrétienne, jusqu'à Christ, jusqu'à Dieu, jusqu'à ce que j'entre dans la gloire ou que Christ revienne, c'est tellement facile d'être juste distrait un peu, tu sais. Puis on s'en revient. C'est tellement, tellement facile de prendre le champ. De prendre le champ. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. « Hey, regarde en avant! » Tom Schreiner résume ceci ainsi, il dit « Lorsque les gens sont assoupis dans une telle somnolence, distraits par les choses de la vie, lorsque les gens sont assoupis dans une telle somnolence, ils perdent de vue la future révélation de Christ lui-même et se concentrent uniquement sur la réalisation de leurs désirs terrestres. » C'est facile pour nous aussi de vivre ça. C'était une des grandes plaintes de John Wesley, un des hommes que Dieu a utilisé dans les grands réveils. Il est allé annoncer l'Évangile à des hommes qui avaient des vies tout croches. Les gars étaient pris dans l'alcoolisme, ils ne s'occupaient pas de leur famille, c'était n'importe quoi. Puis là, il leur annonçait l'Évangile, puis ces gens-là se convertissaient. Et puis John Wesley, comme 20 ans plus tard, regarde l'état de l'Église et voici ce qu'il y a à dire à l'Église. Il dit « Dieu vous a sauvé de votre vie de misère pour vous faire entrer dans son royaume, dans le royaume de Dieu, et vous avez pris ces grâces-là pour vous construire des royaumes, des châteaux sur la terre. » Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis il a commencé à reprendre l'Église en disant « On doit vivre juste avec un petit baluchon sur l'épaule. » Parce que pour nous, le meilleur, c'est juste lorsque je vais aller voir le Seigneur. Je ne pourrai jamais sur la terre acheter ma plus belle voiture à vie. Hey, j'en ai pour l'éternité. Je ne pourrai jamais sur la terre être habillé à mon meilleur. J'en ai pour l'éternité à vivre. Je ne pourrai jamais sur la terre manger le mets le plus succulent. Tout ce que tu vas trouver d'extraordinaire à manger sur la terre devrait goûter pas mal fade lorsque tu vas arriver de l'autre côté, tu sais. Avec un corps glorifié dans la présence de Dieu qui te prépare un rôti d'agneau depuis 2000 ans. Ils sont vains, tu sais. Notre espérance est dans la grâce qui est à venir. Et comme chrétien, j'ai besoin d'apprendre à remettre certaines choses à plus tard. On vit très différemment des gens autour de nous qui vivent pour maintenant, puis, excusez l'anglicisme, mais ça fait beaucoup de sens de vivre pour ici et maintenant si tu penses que tu es juste un tas de molécules qui va se dissoudre, puis il n'y a rien après. Your best life now, c'est sûr, tu sais. Mais pas pour un chrétien. Ça, c'est l'Évangile de la prospérité, pas pour un chrétien. Ma meilleure vie est à venir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la petite vidéo, on a des images. Avez-vous déjà vu le test des guimauves? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous chercherez ça cette semaine, OK, sur YouTube. Vous n'avez pas Internet, trouvez-vous un ami qui a Internet, OK? Allez chercher ça, le test des marshmallows. Puis c'est un test très, très simple, je vous l'explique. Ce qu'ils ont fait, c'est un test en psycho. Ils ont pris des enfants, puis là, ils les ont assis un enfant seul dans une pièce, puis ils ont mis une guimauve devant lui. Puis là, ils ont dit, c'était un test pour voir lesquels sont capables de remettre le plaisir de quelques minutes. Puis là, ils ont dit, bon, ben juste attendre, postpone, remettre à plus tard le plaisir. Ils ont dit, si tu ne manges pas cette guimauve-là, tu vas en avoir beaucoup plus tantôt. Je reviens dans quelques instants. Hey, c'est à mourir. C'est à mourir. La torture qui vivent ces enfants-là, la petite fille qui est là, elle a les deux yeux dans le même trou. elle commence à sentir sa guimauve, puis là, elle fait juste s'y toucher, puis oh, il y en a un petit peu qui est collé. Oh, ça devient encore plus difficile, vous comprenez? Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir cette semaine. Pierre est en train de nous dire que lorsqu'on perd de vue le retour de Christ, on est pareil comme ces enfants-là avec leur guimauve. Puis qui ont l'impression que la guimauve de ta vie actuellement, là, c'est la meilleure guimauve que tu vas manger dans ta vie. C'est le plus grand bonheur que tu vas vivre. Puis c'est... Oh, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas attendre le retour du Seigneur. Pierre est en train de dire, non, la grâce est à venir, c'est pour plus tard. Et je vais vivre autrement maintenant parce que je sais que j'attends une grâce supérieure lorsque je vais être réuni avec Christ. Je vais vivre de manière différente. Je ne peux pas vivre comme ceux qui pensent que, et peut-être effectivement, peut-être qu'ils ont vraiment le meilleur maintenant. Parce que vous savez, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, la Bible ne te dit pas que tes molécules vont se dissoudre et ça va finir là. Que tu sois chrétien ou tu sois non-chrétien, ton âme est éternelle. Soit que tu vas être avec Dieu pour l'éternité ou tu vas être loin de Dieu pour l'éternité. Et donc, tantôt, Basile parlait de la grâce commune, mais pour celui qui rejette Dieu jusqu'à sa mort, tu es en train de bénéficier de la grâce commune. La guimauve, elle goûte bon maintenant. Loin de Dieu pour l'éternité, elle ne goûtera pas bon, la guimauve. Je te le garantis. C'est ta meilleure guimauve que tu vas manger pour l'éternité, ici, maintenant. Mais moi, je suis un chrétien. J'ai une espérance éternelle. Je sais que je vais aller dans la présence de Dieu. Et Pierre me dit que je dois vivre autrement. Maintenant, je veux vous faire remarquer quelque chose de super important dans le passage, parce que comme je vous dis, on arrive dans une nouvelle section de Pierre, puis là, il va y avoir plein d'impératifs. Vous savez, c'est quoi des impératifs? C'est « faites ceci, faites ça, faites pas ça ». Il va y avoir plein de directives qui vont être données aux chrétiens, mais c'est fondamental, c'est super important pour comprendre l'Évangile, pour comprendre le Nouveau Testament, que les impératifs, pour un chrétien, les commandements suivent toujours la grâce. La grâce de Dieu qui nous sauve précède toujours les impératifs. C'est toujours comme ça dans la Bible. Dieu te fait grâce, il te bénit, et parce qu'il t'a béni, tu vas commencer à vivre un style de vie précis. J'ai une autre citation de Tom Schreiner, je pense que j'en ai trois ce matin. Les commandements de Dieu sont toujours enracinés dans sa grâce. Voyez-vous, Pierre a déposé ce fondement-là. Il a dit, vous avez été choisis, vous avez été appelés, vous êtes nés comme enfants de Dieu. Dieu vous a aimé, Dieu vous a couvert de sa grâce. C'est pourquoi, en vertu de cette grâce-là, maintenant que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, maintenant que vous avez connu la grâce, voici comment vous allez vivre à présent. Les commandements de Dieu sont toujours enracinés dans sa grâce. Une autre façon de le dire, c'est de dire que l'indicatif, ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ, est toujours le fondement de l'impératif, comment nous devrions vivre notre vie. Confondre l'ordre ici serait désastreux et le résultat serait des œuvres de justice, au lieu de voir la sainteté comme le résultat de la grâce et du pouvoir de Dieu comme une réponse à l'amour de Dieu en Christ. C'est pour ça que Pierre commence par parler de l'appel. Dieu nous a appelés à lui. C'est lui qui m'a appelé vers lui. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a fait grâce. L'image qui me venait à l'esprit quand j'étais en train d'étudier le passage cette semaine, c'est lorsque Jésus va ressusciter son ami Lazare. L'appel de Christ, son ami est mort, ça fait 3 jours. L'appel de Christ est irrésistible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je n'ai pas comme de possibilité, de catégorie dans ma tête pour dire « Lazare est là, il est mort, il est dans son tombeau, puis il entend « Lazare, lève-toi et sors! » Puis Lazare, c'est « Non. » Non. Ça ne me tente pas. L'appel de Christ est irrésistible. Et en fait, c'est une image qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour parler de la nouvelle naissance. Les prophètes vont dire qu'avant de connaître Christ, on est comme des ossements desséchés, comme Lazare dans son tombeau. Et Christ nous appelle et nous donne une vie qu'on peut pas, on peut pas générer en nous-mêmes. Je peux pas faire de moi un chrétien. Tu dis, hey, j'aime vraiment ça le christianisme. Peux-tu me donner un manuel? Je vais l'étudier. Dans 4 semaines, je vais devenir chrétien. Ça se passe pas comme ça. Tu vas étudier l'Évangile. Et Dieu, dans sa grâce, va venir faire de toi un chrétien. Tu vas étudier ce que Christ a fait à la croix, mais à un certain moment donné, si Dieu t'appelle à devenir chrétien, il y a quelque chose qui va s'allumer en toi, puis tu vas dire « Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Mes passions, mes dispositions changent, mon cœur est en train de changer, j'ai plus les mêmes appétits, je suis comme… » Il y a quelque chose qui est en train de changer. Lazare n'aurait pas pu rester couché dans le tombeau. Christ l'a ramené à la vie. Une fois que Lazare est ramené à la vie, il va vivre pour glorifier Jésus-Christ. L'appel de Dieu sur notre vie est irrésistible. Dieu nous appelle. Et c'est cet appel-là qui précède notre obéissance. Tu es devenu chrétien, Dieu t'a fait grâce, tu as été touché par sa grâce, maintenant tu vas vivre comme un chrétien. C'est super important de comprendre ça. Pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est ça l'Évangile. Mais en plus de ça, c'est que chaque fois que tu n'arriveras pas à vivre comme il faut, dans un instant, on va parler de la sainteté. Hey, c'est pas facile, la sainteté. C'est comme je passe ma semaine à dire, « Seigneur, il me semble que j'ai manqué de bateau. » Mais voyez-vous, si dans mon esprit, à moi, ma sainteté précède la grâce, Dieu va me faire grâce si je marche dans la sainteté, mais j'y arriverai jamais à la grâce. Mais si au contraire, j'ai compris que j'ai été sauvé par grâce, il m'a aimé, mes péchés sont pardonnés, en réponse à cela, je vais poursuivre la sainteté. Mais chaque fois que je me plante, chaque fois que je me pète la gueule, chaque fois que j'y arrive pas, chaque fois que je suis déçu, chaque fois que ma conscience me dit « Hey, bonhomme, t'as péché encore une fois », j'ai pas besoin de vivre dans l'abattement parce que la grâce précède ma sainteté. Je m'en retourne à la grâce. Je m'en retourne à la grâce puis je dis « Ah, Seigneur, je sais que je ne serai jamais sauvé à cause de mes œuvres. Je suis sauvé à cause de ton œuvre à toi, Seigneur Jésus, sur la croix pour mes... » Amen! Sur la croix pour mes péchés. Pas mes œuvres à moi. Jamais. Alors, si ça, ce n'est pas clair, ça devient très lourd. Si c'est très clair, je peux poursuivre la sainteté. Je peux vivre comme un enfant de mon Père. Vous connaissez l'expression « tel père, tel fils »?« Tel père, tel fils ». Un des grands combats de la vie chrétienne, puis je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ça ce matin, mais un des grands combats de la vie chrétienne, c'est que quand tu deviens chrétien, tu deviens fils ou fille d'un autre père que ton père naturel. Puis je te le dis tout de suite, tu vas passer le reste de ta vie à essayer de trier les choses que tu as reçues de ton père naturel, qui étaient peut-être très bonnes ou peut-être moins bonnes, puis que tu as adopté, puis là tu dis « Oui, mais maintenant j'ai un père qui est plus grand puis plus bon. » C'est pas que je renie mon père, c'est que celui-là est pécheur comme je suis pécheur. Il y a des choses qui m'ont transmises qui n'étaient pas selon Dieu. Et maintenant j'ai un autre père. C'est une des choses les plus réelles, les plus complexes de la vie chrétienne. J'essaie de démêler ces choses-là, puis apprendre à vivre maintenant comme un enfant de Dieu. Regardez le verset 14. « Comme des enfants obéissants. » Maintenant que vous avez reçu la grâce, vous êtes devenus des enfants de Dieu, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, avant que vous connaissiez Christ. Et plus loin, au verset 17, il va dire, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » On est maintenant enfant d'un autre père. C'est Dieu qui est mon Père. C'est pas que je renie mes parents, je les aime mes parents, puis je cherche à les honorer du mieux que je peux, puis je veux reconnaître tout le bien qu'ils m'ont fait, puis j'apprends à user discernement dans les choses peut-être où, qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas selon Dieu, qui n'étaient pas saines, puis que j'ai reçu dans cet héritage-là, puis on fait le ménage avec ça à travers les années, puis je continue à les aimer. En fait, je les aime beaucoup mieux depuis que je suis chrétien qu'avant que je sois chrétien, mais ça serait tout un autre sujet. Nous sommes maintenant enfants d'un autre Père. Au verset 18, regardez ce qu'il dit, Pierre. Il dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Oui, c'est vrai qu'il y a des choses. Si ton père ne t'a pas instruit dans l'Évangile, si ta mère ne t'a pas instruit dans l'Évangile, elle ne t'a pas communiqué ce fondement-là. Je n'ai pas reçu cet héritage-là de mes deux parents pour ma part, juste de ma mère. Mais j'ai reçu un autre héritage de l'autre côté. Puis, me donnant le meilleur qu'il pouvait me donner, Pierre dit, il y a une ignorance qui fait qu'il ne peut pas te donner l'Évangile, il ne peut pas te donner la grâce, il ne peut pas te donner ce que les Écritures peuvent te donner. Et je suis appelé maintenant à vivre comme un fils de mon Père qui est dans les cieux. Et ça va amener Pierre à dire au verset 15 à 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » J'ai mentionné depuis le début de la série dans Pierre, si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, vous voulez bien comprendre Pierre, on va passer les plusieurs semaines dedans, commencez à lire l'Ancien Testament. Ça va vous aider énormément à comprendre Pierre. Pierre est imprégné de notions dans l'Ancien Testament. Quand Dieu sauve le peuple d'Israël, il les amène à l'écart. Il les sauve de l'esclavage en Égypte, il les amène à l'écart, puis il leur dit « Maintenant, vous allez être mon peuple. Et parce que vous allez être mon peuple, vous devez vivre comme moi. Moi, je suis saint dans le sens que je suis à l'écart et je vis dans la sainteté. Dieu est sans péché. Il est à part du péché, à part de ce qui n'est pas conforme avec la vérité. » Puis il dit, « Maintenant, vous êtes appelés à vivre, vous aussi, comme un peuple saint. » Pierre est en train de citer différents passages. Je sais pas, c'est pas clair lequel, parce que ça revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Mais je vous donne un exemple dans Lévitique 19, versets 1 et 2. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et tout ce que Pierre est en train de dire, si tu as été touché par la grâce, tu es maintenant devenu un enfant de Dieu. Tu es donc maintenant appelé à marcher dans la sainteté comme ton Père. Sois un fils de ton Père, sois une fille de ton Père. Tel Père, tel fils, tel Père, telle fille. Soyez saints comme je suis saint. Et je suis appelé à aller revisiter toute ma manière de voir la vie, ma manière de voir le travail, ma manière de voir la retraite, ma manière de voir la nourriture, ma manière de voir le loisir, ma manière de voir la sexualité, ma manière de voir l'amour, de voir l'amitié, de voir les relations, de voir ma santé, de voir mon passage sur terre. Je suis appelé à revisiter tout ça pour apprendre à vivre dans cette vie merveilleuse que Dieu nous a donnée, mais comme Dieu veut que je le fasse. Et j'entre dans ce processus-là où je vais apprendre moi-même à être saint comme mon Père est saint. Puis, on va avoir le temps de revenir sur cette notion-là parce que Pierre le développe beaucoup dans la suite, mais je vais juste vous donner un exemple. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, versets 3 et 4, voici ce qu'il dit. « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu. » En marchant dans la dissolution, c'est-à-dire dans le péché, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et vous calomnie? Il dit, les gens qui vous regardent, ils disent, vous êtes vraiment du monde plate, vous autres. Tiens pas aux danseuses avec moi? On s'en va aux danseuses après le travail. Tiens-tu avec nous? On va aller aux danseuses ensemble. Ah non! Sais-tu, je trouve ça plate puis niaiseux, fait que j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire. Mais si tu veux qu'on aille prendre une petite coupe de vin, un petit café, puis qu'on jase ensemble, ça par contre, on pourrait jaser ensemble. Encore Tom Schreiner, il dit, « Cette obéissance est nécessaire à la conversion et ne peut être séparée de la foi, même si elle découle de la foi. » Écoutez bien ceci, je trouve que c'est très, très, très bien dit. Pierre n'avait aucune conception de la vie chrétienne dans laquelle les croyants donnaient un simple consentement mental à la vérité, aux doctrines. Dans la vision de Pierre, quand quelqu'un est touché par la grâce, il devient un enfant de Dieu et c'est évident pour lui qu'il va poursuivre la sainteté, va chercher à marcher dans la sainteté. Ça va de pair, ça va ensemble. C'est inséparable. Puis en fait, je vais aborder quelque chose qui est important de saisir puis qui est délicat à saisir, parce que Pierre l'aborde au verset 17. Père dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Comment un chrétien est appelé à vivre avec crainte alors qu'il sait que tous ses péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ? Bien, l'image, c'est celle d'un père. Si vous invoquez pour père celui qui va juger, c'est lui qui est mon père. Et un bon père, c'est quelqu'un qui est à la fois aimé, je sais que je peux aller vers lui, il va m'accueillir, puis qui est profondément respecté. Mais pas juste respecté comme « Ah, tu as des bonnes valeurs ». Non, parce qu'il y a un processus, il y a un cheminement, des fois comme ses valeurs, tu sais, rien à cirer. Mais il y a un respect qui est là, il y a une sainte crainte qui est réelle, qui est présente. Puis vous allez voir, on va terminer ce matin avec un autre lien que Pierre va faire, qui va nous aider à comprendre l'importance de considérer comme il faut Dieu comme le juste juge. Mais l'image qui me venait à l'esprit cette semaine pendant que j'étais en train d'étudier le passage, c'était un policier. Certains d'entre vous venez de pays où vous avez appris à avoir peur des policiers. D'accord? Dans certains pays, les policiers ne vont pas faire une intervention dans un milieu quelconque seul, parce que la foule les déteste. Le policier va se faire lyncher, il va se faire mettre à mort. Fait que les policiers débarquent toujours avec une camionnette, ils sont 8-10, et c'est la bastonnade. D'accord? La population a peur des policiers. Certains d'entre vous, vous venez probablement de pays où vous avez appris à avoir peur des policiers parce qu'il y a de la corruption, il y a de la violence, des choses comme ça. Dieu merci, on vit dans un pays où les policiers cherchent à bien faire. Ils ne sont pas parfaits. Des fois, tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est peut-être pas 100% là. Mais généralement, ils cherchent à bien faire. Ce sont des gens qui sont là pour qu'il y ait une sécurité. Puis voir une voiture de police circuler dans mon quartier, c'est rassurant. Ça me fait du bien. Mais quand le policier se pointe derrière moi, puis il allume ses gyrophares, puis je me tasse sur le côté. Puis là, il arrive, puis il fait descendre la vitre. Puis là, il dit, « Monsieur, montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. » Mais je réponds pas, tu sais, « Respect, man. J'ai pas demandé tes papiers à toi. Hein? Je t'ai pas achalé, laisse-moi vivre. » Non, il y a une certaine crainte qui est là. Parce qu'il y a vraiment l'autorité de me coller un ticket qui va bousiller mon avant-midi au moins. Il y a vraiment l'autorité de me déranger pour de vrai. Tout de suite, lorsque ces gyrophares allument, je dis « OK, j'ai-tu vraiment… » Oh, shit. Comprenez? Tout de suite, je me pose… Il y a une vraie autorité. J'ai une bonne raison de craindre. Même si c'est un policier super honnête, super gentil, il fait sa job. Et Pierre nous rappelle que même si on est sauvé par grâce, cette grâce-là ne m'offre pas la liberté de vivre une vie de débauche. Paul va faire exactement le même argument dans Romains 6. Hein, est-ce qu'on vivrait dans le péché afin que la grâce abonde? Hey, plus je pêche, plus Dieu est glorifié. Écoute, il me pardonne encore. Gloire à Jésus. Non! J'ai été sauvé par grâce pour vivre ce que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament n'arrivait pas à vivre. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui est habité par l'Esprit-Saint pour marcher dans la sainteté. On a été sauvé par grâce, on reçoit l'Esprit-Saint pour marcher dans la sainteté. Et donc, si tu te vois premièrement comme un pécheur alors que tu es chrétien, probablement qu'il y a quelque chose à changer dans ta vision de toi-même. Tu es premièrement un saint. Quelqu'un qui a été gracié puis qui est appelé à marcher dans la sainteté. Tu es un saint qui pêche parfois. Tu n'es pas premièrement un pécheur qui pêche tout le temps. Puis si dans ta vision des choses, c'est ça que tu es, tu es un pécheur qui pêche tout le temps, mais heureusement, plus je pêche, plus la grâce abonde, il y a un piège qui est là, mon ami. Qui va te garder là. Puis, bon, tu sais, on lutte tout avec notre vieil homme, notre vieille nature, il y a quelque chose de, tu sais, we indulge in our sin, c'est plus confortable peut-être, mais ça tue l'âme, je te dis, ça tue l'âme. Parce que si tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu, puis tu connais ton appel. Fait qu'arrête de te définir comme un pécheur qui est sauvé par grâce, c'est la vérité, mais tu es aussi un saint qui a été gracié puis qui est appelé à marcher maintenant dans la sainteté comme ton Père céleste est saint, comme il est parfait. Dans Galates, on lit « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Fait que laissez-moi vous donner un exemple très, très, très concret du changement de pensée qui se passe lorsque tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu n'arrêtes pas de manger comme un porc pour avoir ton six-pack quand tu t'en vas sur la plage et que les filles te regardent. Non, tu apprends à manger sans excès de table parce que c'est de la débauche de manger comme un porc. Puis, tu es appelé à la sainteté. Je sais là, que c'est le péché le plus tabou des chrétiens. Il ne faut pas parler d'acceptable, je comprends ça. Mais en même temps, on vit à une époque où c'est la nature humaine. Hein? On pêche par excès, puis une fois qu'on décide « Ah, je vais arrêter de pêcher par excès, je vais me donner un corps d'Adonis pour vivre l'éternité sur la terre. » Mais tu pars juste d'un péché à l'autre, là, tu comprends? On n'a rien réglé du tout. Fait que j'arrête de me livrer à cette débauche-là d'excès constant pour faire preuve de maîtrise de moi. Puis tu sais, l'excès là, que tu avais, c'est pour que tu invites plus de monde à manger à ta table. C'est pour ça. C'est pas pour qu'il y en ait plus ici. C'est pour que tu invites d'autres mondes à manger à ta table avec toi, qui rentrent dans la communion de ta maison. Tu invites des frères, des sœurs. Tout ce que tu aurais mangé en plus, c'est juste pour les autres, pour que tu invites des gens à manger avec toi. Mais je le fais pas parce que je poursuis une vie ici sur la terre qui va être parfaite, puis je veux vivre éternellement, puis moi je vais avoir 70 ans, puis je vais avoir l'air de 20 ans, tu sais. Regarde, c'est déjà réglé, tu vas décrépir comme pas possible, tu vas friper, puis quand tu vas arriver de l'autre bord, boum, tu vas être beau comme un cœur, OK? C'est réglé. Fait que fais pas ça pour avoir ton six-pack sur la plage quand tu t'en vas en vacances dans le sud, fais-le pour être saint comme Dieu est saint. C'est la raison pour laquelle les chrétiens le font. Et enfin, je termine avec ceci. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La crainte et la foi qui découlent de la grâce. Pierre nous dit de marcher dans la sainteté, pas seulement parce que Dieu est juste, puis on ne va pas berner Dieu en disant « je suis chrétien » puis « vivre dans le péché ». Non, je suis appelé à la sainteté. Mais Pierre fait plus que ça aussi. Il dit « considérez le prix que ça a coûté pour que vous soyez rachetés. » Il dit au verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pierre dit, considérez donc le prix de votre salut. Cette grâce que Dieu vous a offerte, qui fait que vous êtes sauvés par grâce, vous êtes pardonnés de tous vos péchés. Le prix est énorme. C'est le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour vos péchés. Est-ce que je voudrais mépriser ce sacrifice-là et me vautrer dans le péché? Non, je veux honorer cette grâce-là merveilleuse. Et peut-être que tu es en cheminement, tu es en train de réfléchir, puis tu es en train de cheminer vers la foi. Il y a une perle dans le passage au verset 21. Puis je peux pas manquer ça, c'est vraiment trop génial. Pierre dit, par lui, en parlant de Christ, de son sacrifice sur la croix. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas attirés par les choses religieuses, vous n'êtes pas attirés par les choses spirituelles. Ce n'est pas comme quelque chose qui vous est naturel. Il y a des gens qui naissent, on dirait que c'est des grenouilles de bénitier en naissant. Tu sais. Vous avez déjà entendu ça? Non, c'est une vieille expression. Des bénitiers, une église catholique. Allez visiter ça parce qu'ils sont en train de toutes les démolir pour faire des condos. Allez visiter une église catholique. Vous allez voir à l'entrée des bénitiers avec de l'eau bénite. Bien, on disait des gens qui étaient toujours à l'église, c'était des grenouilles de bénitiers. Tu sais. Ils passaient leur vie dans le bénitier. Certains d'entre vous, vous êtes sentis attirés à Dieu depuis votre enfance. Vous cherchez ces choses-là. D'autres, pas du tout. Ça ne vous attire pas. Puis à un certain moment donné, vous entendez l'histoire de l'Évangile, de ce que Jésus-Christ est venu faire. Puis là, Dieu commence à éveiller quelque chose en vous qui vous attire à Dieu. Voici comment je l'illustrerai. Vous avez peut-être un ami, une amie qui vous a dit pendant des années, « Ah, moi, le mariage, je ne crois pas à ça. Je ne veux rien savoir du mariage. Jamais je vais me marier. Le mariage, ça tue l'amour. Puis, tu sais, c'est pas pour moi, ces affaires-là. » Puis, un jour, la fille, tu sais, elle rencontre un gars, tu sais, puis ils commencent à tomber en amour ensemble. Puis, la première affaire que tu apprends, tu sais, c'est qu'elle va se marier avec lui. Elle ne croit pas plus dans le mariage. Mais elle a rencontré ce gars-là, par exemple. Et certains d'entre vous, vous ne cherchez pas Dieu naturellement, mais en entendant ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour vous, vous dites, « Moi, je n'ai jamais cherché les choses religieuses. Je n'ai pas été attiré par ça. Mais j'ai rencontré un gars, par exemple, qui a donné sa vie pour moi, pour mes péchés. Et cette histoire-là est venue transformer ma vie. » Voyez-vous, moi, naturellement, Yannick Etier, je ne serais vraiment pas ici. Je ne serais pas ici en train d'enseigner. Je ne serais pas avec mon épouse. Ma vie serait n'importe où ailleurs si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ. Mais j'ai rencontré ce gars-là un jour, puis j'ai compris qu'est-ce qu'il avait fait sur la croix, puis il est devenu plus qu'un gars pour moi. Il est devenu mon sauveur, mon Seigneur. Et aujourd'hui, je vais dans la vie en cherchant à marcher dans la sainteté à tous les jours, parce que je sais qu'il m'a aimé, puis j'attends son retour. Fait que ma guimauve, là, je suis prêt à patienter puis pas la manger. Parce que je sais que j'en ai un tas de guimauves qui s'en viennent de l'autre bord. Je garde les yeux fixés sur le retour de Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te célébrer ce matin. On veut t'adorer en église. On veut te louer. On veut, Seigneur Jésus, fixer les regards sur ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, on veut te confesser que dans la culture où nous vivons, où il y a tant d'abondance, tant de loisirs, tant d'opportunités, tant de possibilités, Seigneur. C'est facile, c'est tentant de détourner le regard puis prendre le champ. Juste une journée, juste une semaine, je rembarquerai sur la route après. Et Seigneur, on se fait envelopper par le péché puis on ralentit notre course, Seigneur. Seigneur, on veut à travers cette lettre de Pierre relever la tête, fixer les regards sur ton retour, Seigneur, ce jour où nous serons réunis. Et Seigneur, où les choses les plus attirantes de la terre seront plus belles et plus grandes encore, parce qu'on sera en présence du Créateur sans péché, sans faiblesse, sans déception, mais nous te verrons face à face, Seigneur. Apprends-nous à marcher aujourd'hui dans cette vie en vivant dans l'espérance de cette grâce qui nous est réservée. Apprends-nous à examiner notre vie dans tous les domaines, dans toute notre conduite, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur. Apprends-nous à chérir ton sacrifice Jésus sur la croix au point d'y trouver une profonde motivation pour marcher dans la sainteté. Et rappelle-nous toujours, Seigneur, que c'est parce que tu nous as aimés que nous pouvons maintenant marcher dans la sainteté. Parce que tu nous as ressuscités d'entre les morts et que ton appel était irrésistible, Seigneur, que je peux maintenant marcher dans tes voies. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.